Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Nous sommes donc 25 ans après la Pentecôte. Il est temps de se lancer au loin pour l'annonce de l'Évangile. Nous sommes donc 25 ans après Pentecôte. Et le temps est venu de partir au loin pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à toute créature. Ils ont gagné Jérusalem, ils ont gagné la Judée, ils ont gagné la Samarie, mais maintenant, il est temps de partir vers le monde païen pour annoncer Jésus-Christ et accomplir cet dernier élément de la Grande Commission, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Une base opérationnelle a été plantée, elle a été plantée à l'église d'Antioche, dans cette ville parmi les païens. Et c'est une église clé. C'est comme une tête de pont chez l'ennemi. C'est une église exemplaire qui a connu une croissance merveilleuse, qui a un impact extraordinaire et qui a une merveilleuse attitude. Elle honore Christ, elle exalte Dieu dans ses cantiques. Elle est remplie du Saint-Esprit, elle grandit et puis elle s'affermit dans le Seigneur. Et c'est précisément le genre d'église qui peut atteindre le monde avec l'Évangile. C'est aussi comme cela que je vois notre église, le BTM, bien enseignée, bien disciplinée, pleine du précieux peuple de Dieu, engagé dans l'adoration de Dieu, glorifiant son nom, apprenant sa parole et marchant dans la puissance du Saint-Esprit, prête à gagner le monde avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. J'ai un petit peu embelli, hein. Mais en tout cas, c'est ce que nous visons, c'est ce que nous cherchons. Et c'est pourquoi nous prions aussi pour que l'Évangile se répande, pour que d'autres églises naissent. On a rejoint cette pensée de multiplier par 3 le nombre d'églises en France. On ne va pas faire ça tout seul, mais c'est quelque chose qui est sur nos cœurs, pour atteindre notre peuple, il faut une multitude d'hommes et de femmes qui se lèvent, une multitude d'églises supplémentaires. Nous prions avec bien d'autres pour 100 nouveaux ouvriers d'ici 2020. Si nous examinons l'église d'Antioche, nous allons voir qu'elle a une solide base doctrinale, une solide fondation dans la vérité. Et nous relevons aussi qu'il y a une quantité d'hommes et de femmes capables et exercés dans le service du Seigneur. Et maintenant, c'est le moment pour l'Église d'envoyer ses ouvriers. Cette Église d'Antioche, c'est un merveilleux modèle pour nous. C'est un merveilleux modèle pour toutes les Églises. Regardez, au verset 2, il est dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Et puis au verset 4, il est dit encore: Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Au verset 9, il est encore dit: alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Et puis, si on tournait encore au chapitre 11, un petit peu en arrière, et au verset 24, nous verrions que Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ici, on voit une église qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Et si une église doit avoir un impact dans le monde, ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'une église sous le contrôle du Saint-Esprit peut avoir un impact et être un modèle pour nous, pour notre église. C'est ce que le Seigneur leur avait dit en Actes chapitre 1: et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et cela jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la clé pour qu'une église ait un impact dans le monde, pour qu'une église accomplisse la grande commission, pour qu'elle annonce le message de l'Évangile à travers le monde. Il faut qu'elle soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Une église qui marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est-à-dire conformément à sa parole. Dans le livre dans le Nouveau Testament, on a des épîtres qui ont été écrits à peu près en même temps par l'apôtre Paul dans cette situation où il était emprisonné à Rome. Il a écrit notamment Éphésiens et Colossiens ensemble. Et beaucoup de ces lettres ont des passages parallèles. Quand il parle de la plénitude du Saint-Esprit, il dit en Éphésiens chapitre 5 et au verset 18: « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Mais quand il parle aux Colossiens, il leur dit que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Mais c'est la même pensée qui est derrière. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la plénitude de la parole de Dieu remplissant nos cœurs. Si nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu, nos vies, nos paroles, nos actes, nos pensées seront remplies du Saint-Esprit, seront conduits par le Saint-Esprit. Voilà le genre d'église qui a un impact dans le monde. Regardons alors quelques-unes des caractéristiques d'une église remplie du Saint-Esprit. Je voudrais noter qu'elle est conduite par des hommes spirituels, qu'elle est ensuite engagée dans un ministère spirituel, et puis enfin qu'elle est appelée à une mission spirituelle. Regardons d'abord le premier point. Elle est conduite par des hommes spirituels. Regardez verset 1 dans notre passage. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. De bons leaders, de bons dirigeants. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 36 à 38. Je lis: voyant la foule, il était ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point le berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ici, je trouve ça intéressant, c'est qu'il est ému de compassion parce que le peuple est sans berger. Bien sûr, c'est lui le souverain berger, le grand berger des brebis, le seul qui puisse satisfaire la soif de ses âmes. Mais parallèlement, il dit: alors priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et donc il appelle, il attend que des hommes et des femmes se lèvent, des ouvriers se lèvent pour conduire le peuple de Dieu. Et si une église doit avoir un impact, elle l'aura par la puissance d'hommes spirituels en son sein. Lorsque l'apôtre Paul écrit la première épître aux Corinthiens, vous savez combien de reproches il peut faire à cette église et de corrections il donne à cette église. Mais il évoque le chaos de cette assemblée dans toute sa lettre, mais il ne fait jamais mention d'un pasteur. Il ne fait jamais mention d'un ancien ou d'un leader au sein de cette église. Ce qui nous fait penser qu'apparemment le problème provenait d'un manque de conducteur spirituel, d'où l'anarchie dans l'église. L'église spirituelle est conduite par des hommes spirituels. C'est aussi notre but à Samuel et à moi de voir Dieu former des hommes, des responsables spirituels au milieu de nous. Notamment, nous cherchons à le faire par la formation Éphèse. Parce que c'est ce qui fait que tout le reste arrive. C'est parce qu'il y avait des hommes spirituels à Antioche que l'église d'Antioche a pu envoyer des ouvriers et que d'autres ont pu connaître et entendre l'évangile. Regardez ce qu'il nous est dit en Actes chapitre 6. Je reviens un petit peu en arrière dans notre étude, Actes chapitre 6, au verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, etc. Et puis, je lis encore au verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Si on lit en 1 Timothée chapitre 3, les préceptes que l'apôtre Paul donne pour le choix d'ouvriers, regardez les recommandations qu'il fait. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable, etc. Voyez-vous les recommandations que le Seigneur fait, les standards élevés des hommes dont l'Église doit se doter pour la conduire. Si une Église doit avoir un impact dans ce monde, elle doit être conduite par des hommes spirituels. Je note qu'à Antioche, il y avait des hommes, des enseignants et des prédicateurs, des prophètes et des apôtres. Il y avait Barnabas. Barnabas, on apprend avant cela qu'il était un lévite de Chypre. Il avait d'énormes connaissances de l'Ancien Testament. Au chapitre 11, il nous est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, qu'il avait un caractère profondément chrétien. Et j'aime cette pensée que lorsque Barnabas et Saul ont enseigné à Antioche, on les a reconnus, on a reconnu les disciples du Seigneur pour être des chrétiens. C'est-à-dire que le modèle qu'ils avaient en Barnabas et Saul, c'était vraiment des modèles de chrétiens. Des hommes qui ressemblaient à Jésus-Christ. C'est cela un homme spirituel, quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ dans tout son caractère. Il était un professeur capable, il était très respecté et aimé, il était un homme généreux. On apprend qu'il a vendu son champ pour prendre soin de l'église de Jérusalem qui était dans la misère. C'était quelqu'un d'encourageant. C'est ce que signifie son nom. Il s'appelle fils d'exhortation, Barnabas. Fils d'exhortation. Et puis il y avait encore Simon, appelé Niger. Niger, ça signifie noir. On pourrait dire Simon le Noir. Il n'avait pas de distinction dans cette église d'Antioche. Il n'y avait pas de distinction dans la couleur. Certains pensent qu'il pourrait être Simon de Cyrène. C'est fort intéressant cette pensée-là. Un homme qui a porté la croix du Seigneur, Jésus. Voilà un homme spirituel, un homme qui a mesuré les souffrances de Christ, qui s'est approché de ses souffrances. On n'a pas d'indice plus sérieux que cela pour établir la chose, mais si c'est le cas, c'est voilà un homme spirituel. Et probablement un homme d'origine païenne, probablement un Africain. Et puis il y avait Lucius de Cyrène, également probablement un Africain. Cyrène, c'est une des villes de Libye, donc d'Afrique du Nord. Et puis il y avait aussi Manahen, élevé avec Hérode le Tétrarque, un homme instruit, un homme capable. et puis il y avait Saul. Hein, le futur Paul, c'est comme cela que il va être appelé dans les versets qui suivent, et après on oubliera ce nom de Saul pour garder le nom de Paul. Paul, le livre des Actes, il est séparé en deux. Il y a des chapitres 1 à 12, on parle du ministère de l'apôtre Pierre, et puis du chapitre 13 à 28, c'est le ministère de Paul. Et nous commençons donc avec ce chapitre 13, eh bien, cette seconde section avec l'apôtre Paul. Il y avait donc 5 hommes spirituels, 5 prédicateurs et enseignants de la parole de Dieu. C'est-à-dire une équipe de juifs et de non-juifs, tous conduits par le Saint-Esprit. Voilà encore un principe important pour la vie d'une église. L'église devrait toujours tendre à être dirigée par une pluralité d'hommes pieux. Elle est conduite par des hommes spirituels. Une église remplie du Saint-Esprit est aussi une église qui est engagée dans un ministère spirituel. Regardez le verset 2. Dans notre passage, acte 13, verset 2, il est dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Ils servaient le Seigneur. Ils servaient le Seigneur selon ce que le Seigneur leur demandait, ce à quoi il les avait appelés, ce à quoi les apôtres se consacraient. Selon Acte chapitre 6, verset 4, il est dit « Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Ils faisaient ce à quoi le Seigneur les avait appelés, la prière, ils s'adonnaient à la prière et au ministère de la parole. On peut facilement laisser tomber ces deux choses, ces deux éléments du ministère, pour tout un tas d'autres activités. Et c'est pourquoi les responsables doivent veiller à cela, résister à cette tentation et organiser l'Église pour qu'elle fonctionne dans ces choses, de sorte que eux, qui ont été appelés à s'adonner à la prière et au ministère de la parole, puissent s'y consacrer tout entier. Un fleuve ne coule pas plus haut que sa source. Et si l'Église est bien enseignée, si elle est bien conduite dans la prière, si elle est bien fortifiée dans la foi, alors elle pourra avoir un impact, apporter la vie dans ce monde. Si l'homme de Dieu n'est pas consacré à la prière et à l'étude et à l'enseignement de la parole de Dieu, l'Église ne pourra jamais avoir cet impact. C'est pourquoi l'Église spirituelle, l'Église remplie du Saint-Esprit, est engagée dans un ministère spirituel. Le mot grec ici, pour servir dans leur ministère, c'est le mot « liturgeo », ça a donné « liturgie » pour nous. Ils voyaient leur service pour le peuple comme un acte d'adoration, comme un service pour le Seigneur, à la gloire du Seigneur. C'est aussi ce que l'apôtre Pierre, il dit dans son épître, j'aimerais vous lire ça en 1 Pierre chapitre 2 verset 5, il dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Qu'est-ce que c'est que ces victimes spirituelles agréables à Dieu? Est-ce qu'ils offraient un agneau, une tourterelle, une chèvre ou quelque chose comme ça? Non, rien de tout cela. Les victimes spirituelles, c'était des œuvres de l'Esprit de Dieu. C'était le fruit d'âme amené à Jésus-Christ, c'était du temps dans la prière, c'était du temps dans l'étude de la parole de Dieu, du temps dans l'enseignement des Écritures. C'est ce que nous souhaiterions avec Sam, offrir au Seigneur. Notre service rendu, nos messages, nos prières pour le peuple de Dieu, les heures passées dans l'étude de sa parole ou dans la lecture, dans la méditation, les moments passés dans la prière, nos vies devraient être une offrande d'adoration envers Dieu. Bien entendu, il y a plein d'autres choses à faire, mais ils ne perdaient pas de vue ces deux priorités, la parole, la prière. Il est dit aussi qu'ils jeûnaient. Le jeûne, c'est un moyen d'exprimer l'intensité qu'ils mettaient dans ce service. ça montre aussi leur vigilance par rapport à cette priorité. Ils ne voulaient pas s'apesantir dans leur ministère, mais ils voulaient vivre pleinement le ministère et ses priorités. Ça montrait leur passion pour ces choses, la prière et pour l'étude de la parole. Ça n'est pas parce que vous ne mangez pas que vous êtes plus spirituel. Hein. Il y a beaucoup, c'est l'époque d'ailleurs, beaucoup le font juste pour perdre du poids. Et ils le font avec des intentions toutes charnelles. Mais quand on est tellement passionné par ce que l'on fait, quand on est tellement engagé, absorbé par la cause qui est sur notre cœur, alors il n'y a plus ces désirs, il n'y a plus ces choses-là. Ces choses qui sont légitimes passent au second plan. Enfin, cette église d'Antioche, cette église remplie du Saint-Esprit, elle est appelée à une mission spirituelle. Le Saint-Esprit dit, en deuxième partie du verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Avant que le Nouveau Testament soit achevé, il y avait des apôtres qui enseignaient la doctrine, et puis il y avait des prophètes qui donnaient l'application pratique à l'Église. Et je suppose que le Saint-Esprit a parlé par la bouche de l'un de ces hommes, de l'un de ces cinq hommes, qu'il a utilisé l'un de ces prophètes pour faire entendre sa voix « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Ils priaient, et dans leur prière, ce fardeau venait sur leur cœur. Est-ce que ce n'est pas le moment d'envoyer des ouvriers dans sa moisson? Est-ce que ce n'est pas le moment d'atteindre les extrémités de la terre? Et puis, il y en a un qui a dit, je crois mes frères, c'est le moment d'envoyer un tel et un tel, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu a appelé ceux qui étaient en activité dans l'Église, ceux qui servaient déjà. On pourrait dire qu'il a appelé les meilleurs, Barnabas et Saul, ceux qui étaient là au début, pour une mission spéciale à laquelle je les ai appelés. C'est assez mystérieux, hein, l'appel. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de voir un extrait d'émission. C'est une émission qui est passée sur France 2 et un ami, le pasteur Bozzi, Emmanuel Bozzi, était invité à l'émission. C'est l'émission, je crois que l'histoire, c'est toute une histoire ou quelque chose comme ça, avec Sophie Davant, la journaliste. Et le sujet, c'était les jeunes qui se sont engagés dans le ministère et qui ont connu de l'opposition dans leur famille. Et c'est son cas, à lui, quand il a dit à son père, « Papa, je veux devenir pasteur. » Et il a dit, « Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je veux être pasteur. Je crois que Dieu m'appelle à être pasteur. » Il dit, « Ok, tu fais ta valise, tu t'en vas. » C'était la dernière fois qu'il avait dormi chez lui. Et quand il avait été appelé comme cela, il a témoigné de cela, il a dit à la journaliste qui l'interrogeait, oui, quand Dieu m'a appelé, alors la journaliste a dit, vous envoyez un SMS? Alors il a essayé d'expliquer ce que ça signifiait, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais ici, clairement, Dieu a dit qu'il l'avait appelé, Paul et Barnabas, à une œuvre. Et ça n'est pas une grosse voix qui s'est fait entendre, hey, « Va en Inde !» Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais il y a eu quelque chose sur leur cœur, un tel poids, une telle pression sur leur cœur, une telle conviction sur leur cœur qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que cela. Je me souviens quand le Seigneur m'a appelé. J'avais cette conviction qu'il m'avait fait connaître sa volonté. Et que si je n'obéissais pas, si je ne partais pas pour le servir, j'étais désobéissant. On avait l'habitude de chanter « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. » J'aime ce cantique. Et je pensais aux paroles de ce cantique. Je me suis dit « Mais si jamais maintenant que Dieu t'a fait connaître sa volonté, tu ne pars pas, tu ne pourras plus jamais chanter ce cantique. Tu ne pourras plus dire, jusqu'au bout, je veux te suivre, parce qu'aujourd'hui, clairement, tu as refusé de me suivre lorsque je t'avais clairement fait connaître ma volonté. Voilà ce que c'est que l'appel de Dieu. C'est quelque chose sur lequel, qui pèse tellement sur nos cœurs. Une révélation de la volonté de Dieu telle que si on ne l'accomplit pas, on sait que l'on désobéit. Imaginez la réaction des frères de l'église d'Antioche. « Mais Seigneur, c'est les meilleurs que tu prends !» Et le Seigneur de dire « Ouais, c'est les meilleurs, c'est pour ça que je les prends. » Mais ce n'est pas comme ça en fait qu'ils ont réagi, hein, regardez. Ils ont dit au verset 3, dans ce passage, « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » L'imposition des mains ici, c'est un signe, c'est ce qu'on va faire dans quelques samedis prochains sur ce jeune serviteur Hugo Valero à Orléans. C'est au fond un signe d'approbation, un signe de recommandation, un signe d'identification. Nous sommes avec vous, c'est cela qu'ils disent. Nous vous soutenons, nous prions pour vous. Nous vous envoyons, vous êtes les ambassadeurs de Christ. Et c'est ce qui se passe. Ils partent avec cette recommandation. Ils s'embarquent pour Chypre, ils arrivent à Salamine au verset 5. Et puis ils avaient ici Jean pour aide. Jean, il est surnommé Marc, c'est le cousin de Barnabas. Et ils sont envoyés pour cette mission spirituelle. Et puis là, dans cette aventure, ils arrivent à une difficulté. Ça, c'est le verset 6, regardez. C'est la crise. « Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus. » Bar-Jésus. Alors ça, c'est pas mal. Bar-Jésus, ça signifie fils de Jésus, c'est-à-dire fils du salut. Ça c'est de l'usurpation d'identité. Hein. C'est un nom étrange pour un sorcier, pour un médium. Ils arrivent à Paphos. Paphos, c'est la capitale de Chypre. C'est aussi le siège du gouvernement romain qui est là. Et puis, c'est un endroit, un lieu important pour l'adoration de la déesse Aphrodite, ou Vénus. C'est la déesse de l'amour, du sexe. Et donc, un foyer pour toutes sortes d'immoralités. Et au verset 7, regardez la chose. Il y a cette nommé Bar-Jésus qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. C'est intéressant, hein, ici, il n'y a pas beaucoup d'hommes dont on dit dans les Écritures, c'était un homme intelligent. Et cet homme intelligent, il a un souci, c'est d'entendre la parole de Dieu. Et il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Si vous voulez être un homme intelligent, cherchez à entendre la parole de Dieu. Cherchez à entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Mais regardez au verset 8. Élimas le magicien, car c'est là ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Ici, on a un autre principe. C'est dès l'instant où vous vous apprêtez à servir Jésus-Christ, dès l'instant où vous cherchez à amener quelqu'un à Jésus-Christ, vous pouvez être sûr d'une chose, il va y avoir le réveil pour le diable et pour l'enfer qui va sonner. Et aussitôt, vous allez trouver sur vos talons, sur vos traces, des agents du diable pour se mettre en guerre, pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Ils se déchaînent, c'est une guerre non contre la chair et le sang, nous dit l'apôtre Paul, mais contre les puissances, contre les dominations, puissances des ténèbres, et cela dans les lieux célestes. Autant Christ a des ambassadeurs, autant Satan a aussi des ambassadeurs, et ici Élimas est l'un d'eux. Regardez encore quelques versets, et ça s'est fait toujours en 1 Timothée, d'abord chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4 et au verset 1, je lis « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Et puis au chapitre, dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 8, il dit « De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » Vous voyez, la chose n'est pas nouvelle. Depuis le commencement, depuis Moïse déjà, il s'est toujours trouvé des faux docteurs, de l'opposition systématique aux serviteurs de Dieu, à ceux qui veulent annoncer Jésus-Christ. Je crois que notre Église a des hommes spirituels, qu'elle est engagée dans un ministère spirituel et que Dieu nous a appelés à une mission spirituelle à travers ce monde. Et je sais en même temps que nous nous engageons dans une bataille spirituelle. Et ma crainte est que certains d'entre nous qui devrions partir soient arrêtés à cause de l'opposition satanique, à cause de la résistance de l'ennemi. Satan résiste à l'œuvre de Dieu. Il le fait par l'extérieur, en envoyant cet Élimas, magicien. Mais regardez encore, au verset 13, acte 13, 13, il est dit, c'est juste la fin du verset, « Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. » Et là, on voit encore une autre chose. C'est l'opposition de l'intérieur, la désunion dans ce groupe, la discorde, discussion et division, la résistance à partir. Jean-Marc a fui. On ne sait pas pourquoi exactement, peut-être à cause de cette bataille spirituelle à laquelle il venait d'être témoin et qu'il a peut-être pris peur de cette situation. Mais en tout cas, il n'avait pas de bonne raison de le faire. Et Paul n'a jamais oublié cela. En Actes chapitre 15, quand il décide avec Barnabas de repartir et de visiter les églises qu'il avait fondées lors du premier voyage, eh bien, Paul n'a pas voulu prendre Marc avec lui. Et il a dit, non. Lui, c'est un traître. Il nous a lâchés la dernière fois. Il n'est pas question qu'il vienne avec nous. Barnabas, peut-être parce qu'il était son cousin, il voulait lui donner une deuxième chance. Il voulait l'encourager, il voulait lui pardonner, il voulait probablement le restaurer dans l'œuvre de Dieu. Mais pour Paul, il n'en était pas question. Il avait agi avec lâcheté, il ne reviendrait pas dans l'équipe. Par la suite, il semble que l'apôtre Paul est devenu plus tendre, probablement un peu avec l'âge, avec l'expérience, mais surtout, je crois, par la transformation de Marc, de Jean surnommé Marc. Il est dit en 2 Timothée 4, 11, Luxe, ça c'est la fin de sa vie à l'apôtre Paul, il est emprisonné. Il dit, Luxe seul est avec moi, prends Marc, c'est beau ça, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'aime cette pensée-là. Parfois on a tellement résisté à Dieu, on a tellement désobéi au Seigneur, on a tellement eu peur, la crainte de s'engager, qu'on a l'impression que c'est bon, voilà. C'est trop tard maintenant pour le faire. On n'est plus bon à rien. Et Paul dit ici, il m'est utile pour le ministère. Non seulement pour Paul, mais pour nous tous, puisque c'est lui qui est l'auteur de l'évangile de Marc. Regardez comment Paul a réagi, lui, aux attaques qui étaient faites. Au verset 9, il est dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui, il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Et j'aime cette manière de faire. Il le fixe dans les yeux. Il dit, regarde-moi bien. Écoute ce que je vais te dire. Cesse maintenant. Pour que tu comprennes que tu t'opposes à Dieu, tu vas être frappé d'aveuglement. Parce que tu es aveugle, spirituellement. Et il a cherché ensuite, à tâtonnant sa voix. Et puis il l'appelle fils du diable. Ça, je pense que c'est un jeu de mots. Tu t'appelles, tu dis, tu prétends être Bar Jésus, fils du salut, tu es fils du diable. Tu t'opposes au Seigneur. Tu es l'adversaire du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Verset 11, regardez. Non, pardon, verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Quand nous sommes engagés dans la bataille spirituelle, en tant que chrétiens, nous sommes dans le camp des vainqueurs. On est dans le camp des vainqueurs, du gagnant. Et rien n'est plus doux que la victoire. Rien ne peut nous réjouir davantage que la victoire. Mais si nous tournons les talons, nous ne saurons jamais combien la victoire est douce. Je rends grâce que Paul avait cette plénitude du Saint-Esprit pour être capable de confronter l'ennemi du Christ avec ces mots « fils du diable » et puis de continuer de persévérer dans l'annonce de l'Évangile jusqu'à ce que le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé par la doctrine du Seigneur. C'est les paroles de Paul qui ont frappé son cœur, qui l'ont touché, et il a été gagné à Jésus-Christ. La victoire est remportée. Mais pour cela, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Il fallait être plein du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui remplit nos vies ? Est-ce la parole de Dieu ? Est-ce l'œuvre de Dieu ? Est-ce le caractère de Jésus-Christ ? Est-ce ce qui l'intéresse lui, qui nous remplit ? Combien de forteresses du diable il y a encore dans notre monde ? Combien il y a encore d'opposants à l'œuvre de Dieu ? Il y a 0,63% des Français qui croient, qui jouissent véritablement du salut. Il y a des forteresses partout qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Et cela, dès les plus jeunes âges dans nos écoles, et puis jusque dans les facultés, et puis dans le monde du travail, et puis dans la politique, et puis dans la philosophie, et puis dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui s'opposent au salut qui est en Jésus-Christ. Paul dira en 1 Corinthiens que nous renversons les forteresses par des armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par la vertu de Dieu, par les armes du Saint-Esprit. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons la promesse de la victoire. Ce à quoi nous sommes appelés, en tant qu'église, ici à Toulouse, c'est d'être une église remplie du Saint-Esprit, avec le caractère de cette église d'Antioche, conduite par des hommes spirituels, engagés dans un ministère spirituel et appelés à une mission spirituelle, à une bataille spirituelle dont nous sommes déjà vainqueurs. Alors que Dieu nous secourt, il nous soutienne, qu'il nous fortifie dans la foi et puis qu'il nous remplisse de son Esprit Saint pour que nous puissions aller de l'avant et apporter à notre nation le témoignage de Jésus-Christ. Prions.